La Collective,
l'émission qui explore les questions féministes.
Les deuxième et quatrième jeudis du mois,
à 18h,
sur Fréquence 7.
Bienvenue. Vous écoutez La Collective et aujourd'hui, on fait des histoires. Avec au micro, Hello.
Bonjour.
Alizé.
Bonjour.
Et Domi.
Bonjour.
Et Vanessa.
Bonjour. En ces temps troublés et inquiets, on a voulu raconter des histoires. Des histoires de lutte, des histoires d'écologie et des histoires de femmes écologistes qui luttent. Alors après un détour par l'actu locale et internationale, on voyage de Bagnolet au Brésil, entre assiettes et broderies, en écoutant les récits d'ici et d'ailleurs. Enfin, histoire de ne pas oublier, on explorera les archives. C'est parti!
Le collectif féministe du 8 mars est signataire de l'appel au cessez-le-feu en Palestine. Chaque samedi à 11h, des rassemblements ont lieu à l'Agora à Aubenas. On y était samedi dernier.
En ce 25 novembre, journée mondiale de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, nous avons une pensée particulière pour les femmes palestiniennes qui, en plus de subir les mêmes violences innommables que tout le peuple palestinien, subissent des violences particulières liées au fait qu'elles sont des femmes, faisant notamment face à un risque accru de violences sexuelles. Nous nous faisons l'écho de la parole de Rima Hassan, palestinienne ayant grandi dans le camp de réfugiés de Nayrab en Syrie, jusqu'à ses 10 ans avant de venir en France, aujourd'hui juriste experte en droit international.
Il faut pouvoir dire clairement l'intention génocidaire de la riposte israélienne actuelle contre Gaza, bridant toute empathie, l'exclusion des Palestiniennes et des Palestiniens de la communauté humaine par l'animalisation est la première étape. Par le passé, les Palestiniennes et les Palestiniens ont déjà été qualifiés de cafards, crocodiles ou sauterelles à écraser. Vient ensuite l'essentialisation. On ne considère plus les membres du groupe comme des sujets avec des individualités, mais comme une masse à qui on va accoler une idéologie commune. Comme aujourd'hui, il n'y aurait pas d'innocentes et d'innocents à Gaza, que des terroristes, des monstres. Cela justifie les massacres. L'intention génocidaire se voit également dans le nombre de mortes et de morts palestiniens et palestiniennes jamais atteints en si peu de temps et dans la proportion d'enfants tués. Un plan de nettoyage ethnique révélé par la presse israélienne à la mi-octobre, prévoit de déplacer de force une population pour ce qu'elle est. Et on voit que cela se fait, quitte à la détruire par les bombes. Hommes, femmes et enfants sont ciblés de façon indiscriminée et les infrastructures de soins et de survie sont détruites. Hôpitaux, écoles, citernes, citernes d'eau ou de carburant, camps de réfugiés. Jusqu'à présent, toutes les politiques israéliennes ont consisté à se débarrasser des Palestiniennes et des Palestiniens de différentes manières. Colonisation, occupation, blocus, expulsion, transfert de population. Mais plus on refusera des droits aux Palestiniennes et aux Palestiniens, plus il y aura de ressentiment et de résistance. La garantie de sécurité pour les Juifs et Juives israéliennes ne peut reposer sur une injustice. La séparation et la fragmentation consacrées par la solution des deux États se trouvent aujourd'hui à leur paroxysme et se matérialisent dans un apartheid très documenté qu'il faut démanteler. La suite ne peut être que l'égalité des droits. Solidarité avec les femmes du monde entier. Vive la Palestine libre.
Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine.
On rappelle que les rassemblements continueront jusqu'au cessez-le-feu.
Nous réaffirmons aujourd'hui notre soutien au peuple palestinien et reprenons à notre compte l'appel formulé en mai 2021 par le Palestinian Feminist Collective. La Palestine est une question féministe. Nous affirmons la vie et implorons les féministes du monde entier de s'exprimer, de s'organiser et de se joindre à la lutte pour la libération de la Palestine.
International toujours, on continue à s'intéresser à la sinistre gueule du monde avec l'élection en Argentine, le 19 novembre, de Javier Milei. Adepte de la tronçonneuse, il prévoit de découper à la hache les ministères de l'environnement, des femmes et du travail. un programme largement inspiré par l'extrême droite et ses homologues Trump et Bolsonaro. Milei, qui se présente comme anarcho-capitaliste, est un fervent opposant à l'avortement, qu'il qualifie d'assassinat aggravé par ascendant. Entre autres réjouissances, il propose donc de soumettre le droit à l'avortement à un référendum, droit acquis, on le rappelle, il y a seulement 3 ans en Argentine, de supprimer les ministères des femmes, de remettre en question l'éducation à la sexualité à l'école, alors qu'on sait que 80% des enfants et adolescents ayant signalé des abus sexuels l'ont fait après avoir suivi un cours d'éducation à la sexualité. On est bien sûr très inquiète de ce nouveau signe de la montée de l'extrême droite et de ses valeurs. On apporte bien sûr tout notre soutien à ses opposants et opposantes, et de façon plus générale à toutes les femmes et minorités de genre qui se voient aujourd'hui particulièrement menacées.
Et on écoute maintenant Dalal Abdou Amné, une chanteuse palestinienne qui a fait une tournée en bus dans des villes palestiniennes, chantant des chansons populaires en lien avec l'héritage de ces villes, et ça avec un groupe de grand-mères palestiniennes. Et là, on va écouter l'escale à Haïfa.
هيجع عليك والله تحمو هالساحج شوية
هيجع عليك والله تحمو هالساحج شوية
وحيفة عربية وانا دخيل والله وانا دخيل والله
هيجع عليك والله تحمو هالساحج شوية
وحيفة عربية وانا دخيل والله وانا دخيل والله يا حيفة يا وردي بالقوار يا حيفا يا نوار يا وردي بالقوار كل ستاتك أمارة وانا داخل والله وانا داخل والله يا حيفا يا رمان يا وردي بالبستان كل رجالك شجعاني وانا داخل والله وانا داخل والله
يجعليك
والله تحموا هالساحج شوي
وحيفة عربي
وانا داخل والله وانا داخل والله
Et maintenant, place aux histoires écoféministes.
D'abord, l'écoféminisme Kézako. Vous ne voyez pas forcément le rapport, et une fois de plus, on pourrait passer des heures à creuser la définition de ce concept-là. Pour nous, il se résume très bien en un slogan, « Ni la terre, ni les femmes ne sont des territoires de conquête ». Nous ne savons pas ici à la collective qui est à l'origine de ce slogan, mais si l'autrice touche des droits à chaque fois qu'on l'évoque, il va devenir très riche. Bon, plus sérieusement, le lien entre féminisme et écologie, ce sont les oppressions occasionnées par les mêmes systèmes de domination, le patriarcat et le capitalisme. En gros, la figure de proue de l'écoféminisme pourrait être Vandana Shiva et son ennemi juré, Donald Trump, voire Jair Bolsonaro. Ou bon, assez avec les ennemis, on passe directement aux héroïnes.
Et la première histoire qu'on veut vous raconter commence dans une cantine de Bagnolet, dans le 93. Elle s'est depuis élargie et se poursuit encore aujourd'hui. C'est une lutte d'émancipation écologiste qu'on découvre à travers les mots et les actes de Fatima Ouassak, qui est politologue, autrice et militante, mère de 2 enfants et habitante de Bagnolet. Elle nous explique comment tout a commencé.
En arrivant à la maternelle, après des années d'allaitement, parce que j'ai enchaîné l'allaitement de ma fille avec l'allaitement de mon fils, donc vraiment j'étais... Bon, d'une part fatiguée, mais surtout j'arrive avec l'idée que l'alimentation de mon enfant est très 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 importante et que je me suis pas cassé la tête à gambader comme ça entre le tire-lait et l'allaitement pour me déposséder de l'alimentation de ma fille entre midi et 2 toute la semaine. J'arrive devant un questionnaire où on me demande si oui ou non ma fille mange du porc à la cantine et il manque donc une question à laquelle j'étais habituée à répondre les années précédentes en crèche publique départementale, la question de savoir si oui ou non elle mange un plat avec viande ou un plat végétarien, donc l'alternative végétarienne. Et à ce moment-là, donc je pose une question très technique. Est-ce qu'il est possible de proposer un plat végétarien à mon enfant dans la mesure où elle ne mange pas de viande à la cantine? Voilà. Et à cette question simple, on aurait pu me répondre très simplement Oui, c'est-à-dire bon, voilà, c'est facile à mettre en place. Il y a d'autres villes, parce que là on est à Bagnolet. Il y a d'autres villes en France qui n'ont pas fait sécession, qui sont tout à fait républicaines, et où on propose une alternative végétarienne. On aurait pu me dire oui, effectivement, vous n'êtes pas la seule. Il y a d'autres parents qui sont dans la même situation que vous, d'autres enfants donc qui sont dans la même situation. Il y a notamment des enfants qui sont pris dans un conflit d'autorité entre ce que demande le parent et ce que propose l'institution. Et donc, dans la mesure où ce qui compte, c'est l'intérêt de l'enfant et que c'est ce qui est au centre pour l'éducation nationale, pour les collectivités territoriales comme pour les parents, on va se mettre d'accord autour de cette alternative végétarienne. Bon, c'est évidemment pas, enfin, c'est ce que je raconte dans le livre, ce qui s'est passé, pas du tout. C'est-à-dire que à cette proposition d'une alternative végétarienne qui est une proposition écologiste, puisque non seulement elle mobilise des enjeux d'égalité de traitement, évidemment, de justice sociale, mais aussi des enjeux de santé publique et des enjeux environnementaux, puisque on le sait aujourd'hui encore plus qu'hier, la consommation de viande a un très fort impact sur le réchauffement climatique. Donc, ça aurait pu mobiliser l'ensemble de la population. Et au lieu de ça, on a mobilisé des enjeux idéologiques autour voilà du plan machiavélique communautariste islamiste que je cherchais à imposer dans l'école de ma fille, mais en réalité en France, dans la France tout entière.
Loin de se laisser décourager, Fatima Wassak explique comment ce constat a fait naître le besoin de se mobiliser collectivement. N'arrivons pas à porter ce combat au sein des associations de parents déjà existantes, qui sont malheureusement traversées par du mépris de classe et du racisme latent. Elle et d'autres maires de quartiers populaires se réunissent.
Et c'est parce que j'ai été confrontée à une levée de bouclier, j'ai été confrontée au fait que je n'avais pas mon mot à dire pour ce qui concerne l'assiette de ma fille, mais en réalité, de manière plus générale, le sort de ma fille, son avenir. C'est parce que j'ai été confrontée à ça, en réalité, au fur et à mesure, et avec d'autres personnes qui se trouvent être des mères, on s'est réapproprié cette figure en se disant mais en fait il y a quelque chose à faire avec ça, il y a quelque chose de puissant là à jouer dans et à mobiliser dans nos luttes pour et notamment pour gagner.
Cette affirmation du rôle politique des mères aboutit en 2016 à la création du Front de Mères. Il s'agit d'un syndicat de parents d'élèves luttant contre les discriminations et les violences faites aux enfants. Ce syndicat est maintenant présent sur plusieurs localités en France et mène des actions très concrètes, comme en 2017 avec la campagne nationale « L'alimentation de nos enfants, c'est important ». Cette campagne présente un front commun entre organisations écologistes, Greenpeace et l'Association végétarienne de France, le Front de Mères et avec le soutien d'Attac. Elle avait pour but d'influer sur les politiques locales à l'occasion des élections municipales pour que partout en France, des alternatives végétariennes soient proposées dans toutes les cantines. Le résultat de cette campagne est un succès, et on peut voir dès 2018, avec la loi Egalim, des changements concrets. Un menu végétarien hebdomadaire obligatoire, le droit pour les cantines de servir une option végétarienne tous les jours, et dès le 1er janvier 2023, l'obligation pour les cantines publiques de proposer quotidiennement une option végétarienne. Et depuis ce combat, le Front de Mères ne s'est pas arrêté. En juillet 2020, par exemple, elles organisent la marche Génération Adama, Génération Climat, on veut respirer. On y retrouve la volonté d'allier lutte écologiste et lutte antiraciste, avec un objectif commun, l'avenir des enfants. Assez rapidement, le Front de Mères s'est retrouvé face au besoin de s'ancrer physiquement, afin de continuer à élargir la lutte. S'ancrer, avoir une terre à défendre, c'est pour Fatima Wassak un prérequis nécessaire si on veut élargir au maximum la lutte écologiste. Elle revient dans son deuxième livre, Pour une écologie pirate, sur la création de ce lieu qui s'appelle Vert Dragon, la maison de l'écologie populaire. Co-fondée avec Alternatiba, qui est un mouvement citoyen de mobilisation sur le dérèglement climatique, sa création n'a encore une fois pas été de tout repos. On écoute ces mots lus par Elodie.
Cet espace écologiste est singulier. Géré en grande partie par des femmes non blanches, il est empreint de la culture des quartiers populaires avec la figure du dragon, les mangas, l'immigration. Sa fonction n'est évidemment pas de sensibiliser. Ce sont les quartiers populaires qui y décident d'une ligne dont le but est d'essayer, dans l'urgence, de casser les murs qui empêchent de lutter contre le désastre climatique, en associant les quartiers populaires et quartiers pavillonnaires, les blancs et les non-blancs. Évidemment, ce projet ne plaît pas à tout le monde. Sa création à peine annoncée, il a tout de suite été la cible d'une campagne visant à le détruire. Pendant plusieurs mois, nous avons subi harcèlement, diffamation et calomnie, insultes à caractère islamophobe, raciste et sexiste, mais également été l'objet de reportages ou de débats en plateau, le danger islamiste, sur des chaînes d'infos en continu. Fatima Wassak, pour une écologie pirate.
À la Maison de l'écologie populaire, on peut par exemple assister à une conférence sur le climat, antiracisme et liberté de circulation. Ou alors participer au projet Parcours d'enfants, qui met en lumière ce qui facilite et ce qui entrave la libre circulation des enfants dans la ville, à partir de balades menées par ces derniers. Reprendre du pouvoir sur ce qu'on mange, sur ce qu'on respire, sur les endroits où on peut circuler, ça ne veut pas dire une écologie des petites actions du quotidien. L'objectif est au contraire très ambitieux, et à la hauteur des enjeux écologistes et sociaux. Pour allier les résistances et participer à un large front écologiste, Fatima Ouassak défend une écologie qui n'oublie personne, et plus encore, qui part des personnes les plus touchées par la crise écologique. Une écologie qui brise les frontières et regarde ce qui se passe au sud de la Méditerranée.
De manière générale, l'écologie politique en France ne considère jamais l'Afrique comme un espace philosophique, politique et militant à partir duquel pourrait s'envisager une autre économie, un autre style de vie, une autre civilisation, d'autres rapports sociaux. Ce rapport colonial à l'Afrique se retrouve chez nombre d'écologistes dans leur rapport aux quartiers populaires en France. Dans cette optique, les Européens et les Blancs de classe moyenne supérieure contrôlent la situation. Les théories de la décroissance, sans perspective antiraciste ni anticoloniale, leur permettent de garder la main sans remettre en question les rapports de domination entre l'Europe et l'Afrique. L'Europe reste à l'initiative et au centre du changement. C'est seule qu'elle sauve la planète et seule qu'elle emmène le reste de l'humanité à sa suite. L'Europe est en réalité tout à fait incapable de sauver la planète. Elle n'a pas les moyens de lutter seule contre le désastre climatique, et surtout, elle est l'une des principales régions du monde où sont concentrés ceux qui ont le moins intérêt à ce que le système colonial capitaliste s'effondre. Fatima Ouassak, pour une écologie pirate.
Fatima Ouassak transforme chaque constat, toutes les choses trop souvent considérées comme des états de fait, et les remet en question. Elle tente de mettre en évidence le nœud du problème. Elle montre comment, dans nos manières de penser, mais aussi dans la manière dont les corps occupent les espaces, il se joue quelque chose de politique. Et ça l'amène à nous montrer le lien entre climat, antiracisme, féminisme et liberté de circulation.
C'est l'expérience de la petite fille qui vit dans un appartement exigu d'un quartier populaire où les voitures sont partout et qui a un accès très limité à l'espace public parce qu'il est présenté comme dangereux pour les filles. C'est, plus tard, l'expérience d'une femme qui ne se rend pas à un festival de musique parce que plusieurs viols y ont été commis les années précédentes et que rien n'a été mis en place afin que ça ne se reproduise pas. C'est l'expérience de toutes celles et tous ceux qu'on cherche à assigner à résidence. Celles et ceux dont on cherche à contrôler le corps, la parole et la circulation dans l'espace de pouvoir qu'est l'espace public. Fatima Ouassak, pour une écologie pirate.
On a pris le parti, à la collective aujourd'hui, de raconter cette lutte sous le prisme de l'écoféminisme. Mais elle ne peut être résumée à cela. Les luttes portées par ces organisations allient écologie à la lutte contre le racisme et le validisme, au féminisme et bien sûr à l'anticapitalisme. C'est une pelote de système de domination enroulée bien serrée que nous donne à voir Fatima Ouassak. Mais elle nous montre aussi comment, ici et maintenant, on peut s'atteler à la détricoter.
Libre comme le vent, j'ai mis les voiles, oui j'ai tué l'impossible. Ici fille de l'étoile, vie de déboire, j'ai fui. Au large je lâche ma rage et mes larmes j'essuie. Je suis et file quand les signes le décident. Je m'incline à la vie, même mes flips se résignent. Sur la route vers l'inconnu j'écris mon récit, terre promise, mon exil, loin de ce que le monde exhibe. Fille du vent de l'énigme, libre mais digne, je me délivre, éternelle pèlerine. Digne ennemi de la routine, la tête pleine de rimes, à l'heure où leur monde s'engloutit. Sanglotant je suis parti, là où le soleil a le sourire, en quête de ce dont juste la mal souvenir. Liberté mon fou rire, elle dicte ma voix. Je combats l'inertie, appelle-moi, appelle-moi. Fille du vent, parce que je combats l'inertie, la routine je fuis. Appelle-moi, appelle-moi, fille du vent, parce que la vie est mouvement, leur système n'est qu'un sable mouvant. Appelle-moi, fille du vent, parce que je suis née pour vivre entre les mailles de vos filets. Appelle-moi, appelle-moi, fille du vent, parce que la routine endommage, parce que la vie est mouvement et que je veux lui rendre hommage. J'avance entre les hauts et les bas, je rebondis quand le sol s'écroule sous mes pas. J'ai grandi sous l'étoile, en crise, trop remplie, mon glacial frappe en crise. Être instable, pas tant pis, en vie, tant que l'aventure m'appelle. C'est en marchant sur la terre que je guéris de ma peine. Élan de folie aux yeux de l'autre, je tourne autour du soleil, libre comme l'air et le sourire aux lèvres. De train en train, je suis parti sorti par la fenêtre pour être libre. J'ai morflé quand j'avais pas l'âge de l'être. Alors nique ta morale, peut-être vie à l'occasion. Una vita loca, ma vie un hymne à l'audace. Tous à nos places, jamais. La terre est mon pays, pèlerinage ou périple. Être libre ou périr comme un filet d'eau pure. Sur mes plaies si brûlantes, connectées au présent. Appelle-moi, appelle-moi, fille du vent. Parce que je combats l'inertie, la routine je fuis. Appelle-moi, appelle-moi, fille du vent. Parce que la vie est mouvement, leur système n'est qu'un sable mouvant. Appelle-moi, fille du vent. Parce que je suis née pour vivre entre les mailles de vos filets. Appelle-moi, appelle-moi, fille du vent. Parce que la routine endommage, parce que la vie est mouvement et que je veux lui rendre hommage. Je suis bien qu'en mouvement, retrouvant sans mes tourments, l'ouvrant. Je cherche Dieu loin des masses et des couvents. J'ai souvent pensé à tout plaquer pour vivre mon esprit pleinement, tellement le monde moderne est éprouvant. Mais ma mission est ici, alors je pars et reviens. Comme toi, mon chemin ne partait de rien. Mes pas viennent de loin et n'ont pas fini de marcher. Jusqu'au lever du jour ou quand la mort viendra me chercher, je partirai aussi libre que quand je suis arrivé entre les marées. La vie m'a appris à naviguer d'expérience en expérience comme une lame allumée. Je polis ma pierre jusqu'à voir mes propres soleils s'aligner. Fille du vent, j'ai jamais oublié qu'on était tous frères. Qu'on ne souille pas le soleil avec la poussière. Cœur ouvert, je retrouve mes ailes. M'en veux pas si le système je déserte. Appelle-moi, fille du vent. Parce que je combats l'inertie, la routine je fuis. Appelle-moi, appelle-moi, fille du vent. Parce que la vie est mouvement, leur système n'est qu'un sable mouvant. Appelle-moi, fille du vent. Parce que je suis née pour vivre entre les mailles de vos filets. Appelle-moi, appelle-moi, fille du vent. Parce que la routine endommage, parce que la vie est mouvement et que je veux lui rendre hommage. Fille du vent. Appelle-moi, appelle-moi, fille du vent. Appelle-moi, fille du vent.
On a écouté Fille du vent de Kenny Arcana.
Après Bagnolet, on vous emmène au Brésil, où des femmes s'organisent pour lutter et résister face aux effets dévastateurs de la construction de barrages. Entre 1960 et 2000, c'est plus de 2000 grands barrages qui ont été construits. À la fin des années 70, pendant la dictature militaire, une centaine de personnes se sont réunies pour revendiquer collectivement des réparations financières suite à la construction de ces barrages. C'est la naissance du MAB, le mouvement des personnes atteintes par les barrages. En 2013, les femmes du MAB, MAB, s'emparent d'une technique de broderie utilisée par les militantes chiliennes qui luttaient contre la dictature de Pinochet, les arpailleras. À cette époque, des mères, des épouses, des filles de détenus disparus et de prisonniers politiques racontaient leur histoire et celle de la dictature en les brodant sur de petits morceaux de tissu, utilisant parfois des fils provenant des vêtements de leurs disparus. C'était à la fois un moyen de subsistance, puisque les arpailleras étaient vendus, et un outil de documentation et de communication que le régime de Pinochet qualifiait de propagande subversive. Il prenait d'ailleurs les arpailleras suffisamment au sérieux pour avoir tenté de les détruire.
La mémoire possède une force gravitationnelle. Elle nous attire toujours. Ceux qui ont une mémoire sont capables de vivre dans le fragile temps présent. Ceux qui n'en ont pas ne vivent nulle part. Écoute. Lucia, la casserole est vide. Lucia, la casserole est vide.
Onde estão nossos presos políticos?
Où sont donc nos prisonniers politiques? Comment résister à la dictature?
Comment se libertar para libertar?
Comment se libérer pour libérer toutes et tous?
As mulheres nunca
Les femmes
fugiram
n'ont jamais fui la lutte.
Sofreram a dor
Elles
da
ont souffert
perda.
La douleur de la perte.
Mas não sofreram caladas.
Mais n'ont pas souffert en silence.
As mulheres subverteram
Les femmes ont bouleversé tous les rôles.
Aquilo que sempre era visto como
Ce qui a toujours été considéré comme une tâche domestique a été transformé en un puissant outil. Avec les habits de leurs fils et de leurs maris disparus, elles ont brodé des témoignages historiques de résistance à la dictature.
As arpilheiras
Les arpilleras
uniu a força das mulheres.
Ont uni la force des femmes.
bordados que
des broderies qui sont comme des chansons peintes.
Bordados que
broderies qui se rapprochent d'un chant.
Um canto de vocês.
Un chant qui est le vôtre.
Nosso.
Le nôtre.
Que é o mesmo canto de todas.
Qui est le même chant pour toutes.
E que é também meu próprio
et qui est aussi mon propre chant.
À l'instar des résistantes chiliennes, les femmes du MAB se réunissent en ateliers en non-mixité et, en broderie, racontent les violations des droits humains perpétuées à la construction de ces barrages, ainsi que la dévastation de leur mode de vie par le capitalisme. Les unes et les autres luttent contre le silence, l'effacement et la disparition. La plupart de ces femmes sont des ribérignas, c'est-à-dire des habitantes des bords des cours d'eau. Un mot qui désigne aussi un mode de vie. Les ribérignas vivent de la pêche, de l'orpaillage à petite échelle et des cultures vivrières. Ainsi, Mariana, qui vivait au bord du fleuve Jaguaribe, avant son assèchement, raconte « Quand on est près d'un fleuve, il devient une partie de nous, de notre corps et de notre âme de ribérignos. Le poisson, l'odeur du savon quand on lavait le linge, c'est intrinsèque à notre existence. Voir tout ça disparaître, c'est trop violent. » Chaque fil, tissu, bout de vêtements des arpilleras rappellent une manière de vivre à jamais engloutie par les flots. Ces histoires sont racontées de façon minutieuse par le film documentaire « Arpilleras en brodant la résistance », dont vous avez entendu un extrait. On y suit une dizaine de femmes du MAB à travers le Brésil.
Ces histoires résonnent dans le temps et l'espace. Elles rappellent la démesure des désirs de domination de la nature. Mettre en coupe réglée et ouvrir des cicatrices au cœur de la forêt amazonienne, tracer les lignes de la destruction à coups de tronçonneuses et de débardeuses. Telle était la politique de grands travaux et d'accaparement de la nature des militaires au moment de la dictature brésilienne entre 1964 et 1984. Couper, trancher, avancer dans les espaces reculés du Brésil, dompter les eaux, inonder des territoires, noyer des histoires au nom de l'exploitation des ressources naturelles, tels sont les projets des multinationales de l'énergie et de l'extraction minière aujourd'hui. L'histoire des destructions ne fait pas dans la dentelle, mais s'écrit toujours au détriment des droits humains et de la protection de la nature. Sebastiana, Simone, Alacidia, Cleides et les femmes du MAB brodent, tissent, entremêlent leur vie perdue et leur colère sur de longs tissus colorés pour ne pas oublier. Tisser l'intime et le politique pour se rappeler l'existence d'une manière de vivre, loin de la consommation effrénée d'énergie, de ressources et de la recherche permanente du profit. Les ribérignas racontent avec leurs aiguilles leur relation symbiotique avec leur environnement. Privées de leur mode de vie, ces femmes des bords des fleuves sont les premières victimes de la violence et de l'exploitation sexuelle dans des lieux redessinés et réorganisés par les grandes entreprises de l'énergie.
Elles brodent leur histoire, celle des déplacés et des expropriés que les barrages ont privés de leur lieu de vie. Elles tissent leur histoire, celle des solidarités et des amitiés perdues sous les eaux. Elles entremêlent leurs récits pour dénoncer la catastrophe que les pouvoirs voudraient invisibiliser et renouer avec leur vie dévastée. Raconter une autre histoire, un autre monde. Broder pour, au-delà des anecdotes, tisser une mémoire collective depuis des territoires souvent oubliés.
On a hésité à vous raconter cette histoire, puisque c'est dire des mondes où la catastrophe est déjà arrivée. Ici, il n'y a plus de territoire à défendre. Et pourtant, en écoutant ces femmes, on comprend bien que c'est toujours d'une lutte qu'il s'agit, mais qu'au-delà d'un territoire et d'une mémoire, c'est d'une lutte pour la défense d'un mode de vie dont il est question.
Et comment terminer notre voyage sans une courte escale au Panama ? Depuis un mois, les Panaméens et Panaméennes étaient mobilisés contre le renouvellement du permis d'exploitation de la plus grande mine à ciel ouvert d'Amérique centrale. Un mois de grève, de blocage routier et portuaire pour obtenir enfin la fermeture de la mine, propriété d'une entreprise canadienne. De quoi nous inspirer pour les luttes à venir. Thank you. écouté Violeta Parra Arriba, artiste chilienne qui, dans cette chanson « Quemando el sol », parle justement des ravages des mines.
Des idées du passé.
Pour le futur.
Les arpilleras nous alertent sur la nécessité de garder des traces. Dans beaucoup de sociétés, la participation à la vie publique et surtout politique des femmes a été reniée, voire invisibilisée. Comment aujourd'hui combler les trous de cette histoire, ou trouver les personnes considérées comme femmes qui, on le sait, ont toujours été là, ont toujours agi, dans l'ombre ou la lumière, individuellement ou collectivement? Plus largement, car cette question ne se pose pas que pour les femmes, comment faire l'histoire des personnes minorisées? Et bien pour cela, une des réponses est de s'intéresser à ce qui fait la matière première des historiens et historiennes, les archives. Celles-ci sont multiples et protéiformes. Procès-verbaux de police, journaux télévisés, registres notariaux ou encore articles de journaux, toutes sortes de matériaux peuvent servir à nourrir le travail de recherche.
L'État en est le principal conservateur en France. Il y a les archives nationales d'abord, 384 km de fond, c'est énorme. Et puis les archives régionales, les archives départementales, les archives communales, les archives des ministères de la Défense et de l'Économie, etc. On conserve depuis le Moyen-Âge et chaque jour de nouveaux documents rejoignent les fonds. Alors vous le voyez venir, archiver c'est aussi faire des choix. Et c'est là que ça se corse. Qu'est-ce qu'on considère comme important? Qu'est-ce qui a une valeur historique? De quoi aura-t-on besoin plus tard pour faire l'histoire? Et par conséquent, qu'est-ce qui part à la poubelle? C'est évidemment une question très politique.
Un exemple très parlant a été relaté dans la revue Panthère Première par Hélène Brandilly et Lucie Zindel. Depuis la loi Veil, qui a dépénalisé l'IVG en 1975, chaque personne ayant recours à un avortement a rempli un bulletin statistique d'IVG. Ces bulletins, qui précisent par exemple l'âge de l'intéressé, sa profession, sa situation maritale ou son lieu de résidence, sont conservés aux archives nationales et sont utilisés pour fournir des analyses statistiques. Une partie seulement de ces données est numérisée. Ces bulletins papier sont donc des traces précieuses et rares sur les choix reproductifs des femmes en France. Eh bien, sans la mobilisation d'historiennes, de politistes et d'archivistes, ces bulletins auraient pu partir au pilon, c'est-à-dire être détruits, à l'occasion du déménagement des archives nationales en 2018. Une belle manière de fêter l'entrée de Simone Veil au Panthéon.
Alors est-il bien prudent de laisser entièrement à l'État le soin de conserver nos archives? C'est la question à laquelle répondent des endroits comme le Centre audiovisuel Simone de Beauvoir, créé en 1982. Le centre entend diffuser, conserver et enrichir un fonds très riche de documents audiovisuels, essentiellement constitués de vidéos, touchant à l'histoire des femmes, à leur lutte et à leur création. Parmi leurs pépites, un film de Carole Rossopoulos sur la lutte des prostituées à Lyon. C'est aussi ce que tente de faire le Bras Zéro à Lyon, et on écoute Baum nous en parler.
Alors le Bras Zéro, en fait, c'est un lieu à Lyon dont je fais partie, qui est à la fois une bibliothèque et un centre d'archives LGBT et féministes. C'est tenu par une association qui s'appelle Mémoire Minoritaire. Ça consiste à accumuler beaucoup de papiers, beaucoup de revues et toutes les petites traces qui parfois ne trouvent pas leur place dans les archives nationales, départementales, ne serait-ce tout simplement parce qu'il n'existe pas de mots dans le thésaurus de ces archives pour caractériser ces documents en fait. Par exemple, je crois qu'on doit trouver le mot inverti, mais on ne trouvera jamais le mot lesbienne, on ne trouvera pas le mot trans ou alors très peu. C'est pour combler un trou de l'histoire, parce que de manière générale, les archives ont tendance à archiver les dominants. Et les femmes et les personnes LGBT, c'est pas exactement les dominants.
Est-ce que tu peux nous donner des exemples d'archives que vous avez?
Alors, actuellement, en fait, ce qu'on a le plus, c'est des bouquins. Qui dit archives dit des vieux bouquins. Mais pas que ça. Ça veut aussi dire, par exemple, des objets. Qui sont des pièces qui ne sont pas conscientisées par les archives institutionnelles. Et ça peut aller d'une théière à, par exemple, un t-shirt humoristique Club Ped, pour faire le genou avec Club Med. On a aussi, par exemple, des photos de toutes les marches des fiertés lyonnaises. Et on a également des facsimilés, c'est-à-dire des reproductions imprimées de revues trans états-uniennes assez anciennes, plutôt années 80, années 90, comme par exemple Original Plumbing, donc plomberie originale traduite comme ça, dédiée aux personnes transmasques, et une un peu plus vieille, surtout consacrée, faite par des personnes transfemmes, qui est Transvestia. Et enfin, pour conclure, je peux dire qu'on fait un appel à archives, un appel à dons, voilà, comme je disais, qui peuvent prendre toute forme, autant du papier que des objets. Et n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux ou sur notre site.
Alors, pour contacter le Bras Zéro, et si vous avez des archives à leur léguer, vous pouvez aller sur leur site www.brazero.org et leur écrire à l'adresse suivante contact@mémoireminoritaire.fr. On vous remettra tous les contacts sur la page de l'émission. Alors, vous avez compris, faisons des archives pour le futur, préservons les traces de nos luttes et soutenons les archivistes et les fonds d'archives alternatifs.
On remercie le podcast Présage pour l'interview de Fatima Wassak, l'équipe de Panthère Première pour le dossier sur les arpilleras et Roxane pour le doublage de l'introduction du film. On se quitte en écoutant La Bronca de Sarah Ebé, rappeuse argentine. Au revoir à tous, merci pour votre écoute, chers auditoris.
Wow, 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 police de la langue française. Veuillez poser vos stylos, vous reculez calmement du micro. Vous êtes en flagrant délit d'utilisation d'écriture inclusive. Vous avez jusqu'à la prochaine émission pour préparer votre défense.
Escupen para arriba, pero no nos contagiamos. Alta defensa, eso es chiquitaje. Mira lo pobre pibe, quedó mandando mensaje. Dale aquí, te ahí millando, ¿qué pasó? Me levanto ya brillando, tengo mi persona al sol. Me llego un beat muy friki, ya salgo en mi pizzi. Upsi, me sale algo piola, voy a quedar tipsy. Dale aquí, te ahí millando, ¿qué pasó? Me levanto ya brillando, tengo mi persona al sol. Me salió un beat muy friki, ya salgo en mi pizzi. Upsi, me sale algo piola, voy a quedar tipsy. Salta la bronca, siguen protestando. Escupen para arriba, pero no nos contagiamos. Alta defensa, eso es chiquitaje. Mira lo pobre pibe, quedó mandando mensaje. Salta la bronca, siguen protestando. Escupen para arriba, pero no nos contagiamos. Alta defensa, eso es chiquitaje. Mira lo pobre pibe, quedó mandando mensaje. Alta defensa, eso es chiquitaje, mira lo pobre pibe.